Nice.
Yeah.
What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bombas socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
Le meilleur de Séance Radio est maintenant sur We Love Cinéma.
Cette semaine en flashback, nous recevons le réalisateur Nicolas Lasnibat pour son film La biographie inventée. Roberto Bolano, ce nom ne vous dit peut-être rien, mais il est l'un des personnages clés de la littérature sud-américaine, tour à tour poète, puis auteur de romans et de nouvelles. Pour son premier long-métrage, le cinéaste chilien Nicolas Lasnibat lui consacre une œuvre qui oscille entre documentaire et fiction, justement intitulée « La biographie inventée », dans lequel il fait la part belle à un auteur fictif, Arturo Bolano. Vous n'avez pas tout compris. C'est pas grave, Nicolas Lasnibat, qui est en plateau avec nous, va tout vous expliquer. Nicolas Lasnibat, bonjour.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous dans Flashback. Vous êtes né à Valparaiso, au Chili. Vous avez travaillé comme scénariste pour le cinéma et la télévision et aussi comme critique de cinéma. Vous avez ensuite fait vos études à la FEMIS à Paris avant de réaliser plusieurs courts-métrages primés dans les festivals. Vous avez été également l'assistant de Patricio Guzman sur Nostalgie de la lumière et Le bouton de nacre. La biographie inventée est votre premier long-métrage. Alors, Nicolas, expliquez-nous tout. Quelle est la part de vrai et de faux dans votre film ?
Alors, le film, c'est tout à fait vrai. Les sujets complexifient finalement les projets. Parce que les sujets du film, c'est la fiction. C'est-à-dire, c'est un documentaire, c'est une forme documentaire sur la fiction de l'œuvre de Roberto Bolaño. Et du coup, il y a une part qui est réelle. Je suis allé dans plusieurs pays chercher des gens qui ont vraiment connu l'auteur pour parler de son alter ego. Roberto Bolaño, il a inventé Arturo Bolaño pour vouloir, si vous voulez, je pense, laisser une trace littéraire d'une vie inventée.
Alors, juste pour reclarifier pour nos chers auditeurs, Roberto Bolaño est un auteur important qui a vraiment existé. Arturo Bolaño, lui, est un personnage fictif, une sorte, comment vous pourriez qualifier, une sorte de double.
C'est son auteur. Double, c'est son alter ego. Il partage avec l'écrivain des amitiés, des lieux de vie, un parcours similaire. Et mon travail, ça a été aller chercher ces endroits que le personnage de fiction avec son créateur, c'est-à-dire le créateur et sa créature, ils ont partagé finalement dans le monde réel. Donc j'ai pu aller toucher vraiment ça, aller poser les caméras dans des endroits qui ont vraiment existé et rencontrer des gens qui ont vraiment existé aussi. Mais en même temps, il avait une partie fiction où je suis allé chercher des comédiens pour jouer des rôles des personnages de fiction, qui n'y a pas beaucoup quand même. Hein. Il y a deux, trois. Les publics français, il va découvrir après une heure de visionnage du film, Anne Alvaro, par exemple, qui a gagné deux fois le César.
Ce qui, pour un spectateur français, fait un peu basculer le film. Hein.
Tout à fait.
Puisque quand on arrive dans votre film et qu'on ne connaît pas le sujet, ce qui était mon cas, on voit soudainement Anne Alvaro camper un personnage qui n'existe pas. Là, on se dit, où est-ce qu'on est ? Dans quoi on se trouve ?
Tout à fait. Moi, je voulais être très fair-play avec le public. Donc, je voulais des comédiens connus, des visages facilement reconnaissables par les spectateurs. Au Chili, ça arrive un peu plus tôt. Il y a une comédienne qui s'appelle Amparo Noguera, qui a joué dans plusieurs films de Pablo Larraín, etc., qui arrive à la moitié du film. Mais les spectateurs français ne la reconnaissent pas. Donc, moi, je voulais troubler un peu ça, les points de repère des spectateurs à travers une forme documentaire totalement innovatrice.
Moi, ce qui m'intéresse aussi dans ce film, c'est que, c'est inspiré par l'œuvre de Roberto Bolaño. Et donc, au centre de l'œuvre de Roberto Bolaño, il y a un livre qui s'appelle Les Détectives Sauvages, qui est un livre énorme. Hein, c'est un livre de 1500 pages ou quelque, enfin, ça dépend de l'édition, mais c'est vraiment un pavé. C'est un peu les Détectives Sauvages, c'est un peu une sorte d'équivalent sud-américain et récent d'Ulysse, quoi. C'est un livre qui est de Joyce. C'est un livre foisonnant, épais, et qui raconte, là aussi, des personnages qui sont embarqués dans une quête et dans un voyage initiatique qui tourne autour de gens qui n'existent pas et qui pourtant va les mener à la rencontre de gens qui existent. Par exemple, il y a un personnage qui est dans Les Détectives Sauvages, qui est Michel Bulteau, qui est un philosophe...
Un poète électrique
et assez anarchiste. Et donc, Bulteau est dans Les Détectives Sauvages et il est dans le film de Nicolas Lasnibat. Et donc, moi, je me dis que est-ce que ce film, finalement, c'est pas une tentative de recherche de solution à l'adaptation d'un livre pratiquement inadaptable, parce que je pense que le livre de Bolaño est pratiquement inadaptable au cinéma, comme l'est d'ailleurs Ulysse de Joyce, et que peut-être que la formule qu'a trouvé Nicolas Lasnibat part de cette volonté d'essayer d'adapter quelque chose d'inadaptable.
Tout à fait, il a deux romans qui sont clés pour le projet, qui est Étoile distante, c'est un roman qui se passe plutôt au Chili, à la côte catalane espagnole, et Les Détectives Sauvages. Les Détectives Sauvages, la boîte de production au Mexique de Gael García Bernal, il a voulu faire une adaptation cinéma, je ne sais pas où ils sont, depuis 4 ou 5 ans qu'ils essayent d'adapter le roman, et ça a été vraiment un guide, c'est-à-dire une espèce de carte pour se retrouver dans cette adaptation de mon côté, et aller chercher des pistes pour trouver et reconstruire cette biographie d'Arturo Bellano à l'intérieur de mon film. Il y a quelque chose qui est drôle, c'est que Bolaño n'a jamais rencontré Michel Bulteau, par exemple. Et moi, récemment, quand je fais le film, j'ai pu faire les liens entre les poètes mexicains qui sont les inspirateurs des personnages de Bolaño, qui existent vraiment, et Michel Bulteau. Ces liens dans le réel... Ça s'est fait à travers de mon film. Donc ce sont des choses qui, dans le monde d'aujourd'hui, des fake news, etc., je pense que laisser rentrer un peu de fiction dans le réel et un peu de réel dans la fiction, c'est plutôt pas mal.
Alors Roberto Bolaño, le vrai, faisait partie du mouvement de l'infraréalisme. Est-ce que vous pouvez nous en dire davantage sur ce mouvement au Chili
C'est un mouvement mexicain, parce que Bolaño, il a vécu à partir de ses 18 ans au Mexique. Et c'est, si vous connaissez les beatniks aux États-Unis, c'est un peu les beatniks mexicains, qui sont encore aujourd'hui très peu connus, parce que, voilà, eux, ils sont très critiques depuis le début du mouvement littéraire de Carlos Fuentes, de Octavio Paz, etc. Donc, la culture établie littéraire au Mexique, ils essayent de le mettre à l'écart. Et le livre de Bolaño, Les Détectives Sauvages, il a permis de les redécouvrir. Mais ils sont un groupe des poètes assez discrets. Moi, ça a été très compliqué de pouvoir les aborder et pouvoir les filmer. Et je pense que voilà, un film comme la biographie inventée permettra de les faire ressortir, pouvoir traduire ces poèmes dans des langues comme l'anglais ou le français, quelque chose qui n'existait pas aujourd'hui.
Alors, vous faites partie à la fois du cinéma français et du cinéma latino-américain. Vous avez grandi au Chili avant de faire vos études à la FEMIS en France. C'est quoi la cinéphilie en Amérique du Sud ? Parce que moi, j'ai été frappé un jour à l'aéroport de Santiago du Chili. Je me suis aperçu que dans la boutique de livres et de journaux de l'aéroport de Santiago du Chili, on vendait des dizaines de films classiques. Donc c'était et en fait, d'ailleurs, je me suis ruiné à la librairie de l'aéroport avant de reprendre l'avion. Donc on se dit quelque part que en Amérique du Sud, on regarde des classiques, mais je sais pas exactement lesquels, je sais pas comment les influences se fabrique, et comme vous-même vous êtes assez imprégné de culture cinématographique, qu'est-ce que c'est être cinéphile en Amérique du Sud ?
Alors à mon époque, aux années 80, être cinéphile c'était être une espèce de freak total. Moi j'ai grandi en voyant des films dans les instituts des ambassades, sur des copies 16 mm, un peu, c'était assez compliqué. Aujourd'hui, je pense que ça a changé avec Internet et tout ça. Mais être cinéphile, bon, il faut faire un peu la différence. En Argentine, Mexique, Brésil, c'est tout à fait différent. Il a une vraie cinéphilie parce qu'il a une présence, il a une connexion au monde. Après, il a d'autres pays qui sont plus petits. Par exemple, l'exemple de l'Uruguay, la Cinémathèque Uruguaya, et être étonnant dans l'histoire de la cinéphilie mondiale. C'est eux qui ont découvert Bergman, par exemple, au monde entier.
Comment ça s'est passé? Comment ils ont fait pour... comment se fait-il que la cinémathèque d'Uruguay ait fait connaître Bergman au monde entier?
Parce qu'ils ont eu un lien avec Zwenk Film Industry, peut-être. Ils ont fait une petite rétrospective là-bas et personne... Bergman, il n'était pas dans le radar des cahiers ou des positifs en France. Et ils ont été les premiers qui ont fait ça. Quoi. Et ils sont très fiers, même aujourd'hui, de ça. Du coup, il avait aussi des collectionneurs, des copies 35, etc. Moi, je connais, j'étais très proche d'un groupe de cinéphiles qui avait la première salle d'art et essai à Santiago, qui avait une petite collection avec des moyens très, très limités. Et donc, on voyait des copies 35, des films classiques, etc. Après, c'est très compliqué de voir des films latino-américains en Amérique latine. Ça, c'est très, très, très clair. C'est plus simple de voir des films au Festival des Biarritz en France et passer une semaine à se mettre à jour, si vous voulez, de la production en Amérique latine, qui est à Santiago ou peut-être même à Buenos Aires. Donc nous, la circulation des films latino-américains à l'intérieur du continent, c'est très difficile et on ne connaît pas vraiment.
Hein. Et alors, est-ce qu'il y a des classiques latino-américains quand même?
Bien sûr, il a des classiques, il a des films... bon, il a tout Buñuel mexicain, il y a des films qui sont, par exemple, du cinéma chilien de l'exil. Il a les films des premiers Raoul Ruiz qui ont été faits... avec une seule caméra, la même caméra. Bon, là, il y a une histoire particulière avec les cinémas chiliens parce que quand Jory Stevens, il est allé au Chili, invité par l'Université du Chili, faire des documentaires, des petits courts-métrages, dont A Valparaíso, qui était produit par Anatole Domon, français d'Argos Film, grand producteur. Et ils ont acheté une caméra 35. Avec cette caméra, ils ont réalisé les premiers films de Miguel Littin, les premiers films de Raoul Ruiz et les premiers films d'Aldo Francia, qui étaient les grands fondateurs du nouveau cinéma chilien fin des années 60. Et ça a déclenché un mouvement de cinéma qui a été arrêté par le coup d'État au Chili. 73, qui après, ça a repris avec le retour de la démocratie en 90. Mais après, là, on vient de voir, je crois, à Bologne, un film d'Emilio Fernandez, mexicain, qui vient d'être découvert, mais nous, les latino-américains, on les connaît très bien. Et lui, il a adapté Steinbeck, il travaillait avec Gabriel Figueroa à La Lumière, qui était un héritier des Grecs d'Hollande au Mexique.
Il avait découvert Maria Félix, qui est devenue une grande actrice, y compris en Europe.
Tout à fait. Donc ça, c'est pour nous nos classiques. Après, les voir, c'est très compliqué parce que les cinémathèques, ils n'existent pas vraiment. À Buenos Aires et Montevideo et au Mexique, il en existe. Mais au Chili, nous, on n'a pas. On n'a pas de système de conservation des films. Et donc nous, les Chiliens, au moins on manque à ma trilogie chilienne et Léon Dépôt à la Cinémathèque de Toulouse parce qu'il a des vraies conditions de conservation, mais voilà, il n'y a pas vraiment une conscience de la conservation des films et pouvoir montrer des grands classiques sur des salles.
Et ces grands classiques, est-ce que vous les avez aussi découverts en France, quand vous êtes arrivé en France, à travers justement les cinémathèques, les salles de quartier, les ciné-clubs, et si oui, quels ont été vos cinéastes de découverte quand vous êtes arrivé en France?
Quand je suis arrivé en France, moi je suis tombé amoureux de Paris à cause de la cinéphilie. Et ce n'est pas du tout cinéma latino-américain. Il avait à l'Action École une rétrospective d'Anthony Mann. Je n'avais jamais vu du Anthony Mann en 35 mm. J'ai vu tous les films. Et quand j'ai passé le concours de la FEMIS, ils m'ont posé la question, bon, qu'est-ce que tu as fait à Paris depuis 10 jours? J'ai cité 30 films que j'avais vus en 10 jours. Et c'était une espèce de mise à jour en... Je me souviens, à Saint-André-des-Arts, il avait la saga Bergman, il avait tout Bergman qui passait. Donc ça, à Paris, plaque tournante des films classiques, c'est vraiment extraordinaire. Pour un cinéphile, vivre à Paris, l'expérience parisienne, on a du mal à la quitter quand même.
Et c'est une expérience que vous prolongez toujours? On parle chaque semaine de toutes les ressorties, notamment en salle. Est-ce que vous continuez à les voir? Elles sont la plupart maintenant, elles sont même toutes aujourd'hui en version numérique, restaurées. Est-ce qu'il y a encore des films évidemment peu connus qu'on redécouvre? Est-ce que vous y allez toujours?
Oui, tout à fait. On ne peut pas... Moi, comme Bolaño, quand lui il parlait de son œuvre, lui disait « je suis un lecteur avant tout, avant d'être un écrivain ». Moi, je suis un spectateur avant aussi. Donc, j'y vais souvent. Je vais souvent à la Cinémathèque, au Quartier Latin, voir des films, revoir des fois. Là, je viens de voir le dernier, la ressortie du film de Dennis Hopper, The Last Movie. Et aussi, j'ai vu presque tous les films de la rétrospective récente à la Cinémathèque. Les revoir dans des copies restaurées, c'est comme les voir pour la première fois.
Et Bresson, donc, parce que ça vous nous avez pas encore parlé, il fait partie de vos cinéastes de chevet. Quels sont un peu les réalisateurs qui vous ont le plus influencé et qui vous influencent encore?
Alors pour la biographie inventée, c'est pas Bresson. Bresson, je voudrais faire un film sur lui, un documentaire. Et c'est très compliqué de trouver un producteur parce que bizarrement en France, les gens disent bon Bresson, il n'est pas connu, c'est trop cinéphile. Moi, je comme Chilien. Comme étranger en France, c'est inacceptable. C'est un des cinéastes les plus connus à l'étranger, après Godard et Truffaut, par exemple. Mais pour la biographie inventée, pour moi, ça a été Wells, ça a été Orson Welles et Chris Marker, les grands maîtres sur lesquels la fiction, l'essai cinématographique, la vérité, les mensonges, ils sont dans certains de ces films. Marker et Wells, moi, je pense qu'ils font partie d'un espèce de club de menteurs magnifique. Et moi, je voulais explorer ces terrains-là sur mon film. Mais après, j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup de références et des cinéastes que j'adore. Moi, j'aime beaucoup sur mes films de fiction et la trilogie chilienne que vous avez citée tout à l'heure. C'est surtout les néoréalismes italiens qui m'a énormément marqué.
Nicolas Lasnibat, merci beaucoup. Donc, alors, je rappelle la sortie donc de la biographie inventée, mais nous ne l'avons pas précisé. Où est-ce qu'on peut voir votre film? Je crois que il va être bientôt au Chili. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus?
Alors, le film, il va être présenté mois d'août dans le Festival de Santiago, le SANFIC, qui est un festival le plus important du Chili. On aura sa première là-bas. Et puis, là, on attend des réponses des festivals en France. Je pense qu'on aura une première française avant la fin de l'année. Les films, ils viennent d'être finis récemment. Donc là, on attend des festivals et on attend des distributeurs pour essayer de donner une chance en salle.
Eh bien, espérons que nos auditeurs pourront le découvrir prochainement dans les salles. Nicolas Lasnibat, merci beaucoup.
Retrouvez l'ensemble des contenus Séance Radio proposés par We Love Cinéma sur tous vos agrégateurs de podcasts.